Bonjour Xavier.
Bonjour.
En matière de technologie, il est toujours bon d'aller voir ce qui se passe aux États-Unis, car bien souvent, s'y préfigure notre avenir proche. Rêve ou cauchemar, ça vous nous le direz. Le secteur éducatif n'échappe pas à la règle. Il se passe beaucoup de choses en ce moment là-bas.
Oui, au Texas, en Virginie et dans d'autres États américains, le patron de Netflix promeut dans les écoles des algorithmes qui donnent des cours de maths aux élèves. Dans plus d'une centaine d'écoles à travers les États-Unis, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, teste une de ses idées, des logiciels qui permettent aux élèves d'apprendre tout seul. Au dire du New York Times, le phénomène est loin d'être anecdotique, c'est une part toujours plus grande des écoles publiques américaines qui sont concernées. En l'espace de quelques années, je cite le journal, les géants de la technologie ont commencé à modifier la nature profonde de l'école en utilisant les mêmes techniques que celles qui ont permis à leurs entreprises de transformer l'économie américaine. La croyance est double. 1. Les élèves gagneraient à adopter la tournure d'esprit de l'ingénieur, ce qui reste à prouver. 2. La réussite entrepreneuriale de ces géants de la tech les rend légitimes pour repenser l'éducation américaine. Et de fait, des milliers d'élèves américains deviennent les bêta-testeurs de leurs idées. Et le New York Times de prendre un exemple, celui d'un programme du nom de code.org, financé notamment par Microsoft, qui s'est donné pour but de promouvoir dans les écoles l'enseignement de l'informatique. Grâce aux 60 millions de dollars mis sur la table par les donateurs, des centaines de cursus ont été créés dans tous les États-Unis, des dizaines de milliers d'enseignants ont été formés. Alors bien sûr, c'est financé. L'anthrope de la tech refuse l'idée qu'il chercherait à influer les politiques éducatives. D'abord, selon eux, la vraie évolution, c'est l'entrée d'Internet dans les écoles, qui en soi, selon eux, toujours a plus d'effet que leurs initiatives. Et puis, c'est évidemment la tradition américaine que des philanthropes venant de l'industrie participent au financement de programmes scolaires. Sauf que, il y a quelque chose de nouveau, ces initiatives sont poussées directement auprès des élèves, des parents et des professeurs, notamment grâce à l'usage des réseaux sociaux pour contourner l'institution scolaire. La mobilisation se fait plus vite et par le bas. Et puis, ces entreprises gardent la main sur toute la chaîne. Elles financent, elles fabriquent les logiciels et elles subventionnent la formation des enseignants. Comme le dit un professeur de sciences de l'éducation de Stanford, il s'agit d'un quasi-monopole sur la réforme éducative, ce qui est très différent des générations antérieures de philanthropes. Car cela coïncide avec une forte pression exercée par ailleurs par la Silicon Valley pour vendre des ordinateurs et des logiciels aux écoles, un marché qui est estimé aux alentours de 20 milliards de dollars. Le bénéfice de ces entreprises est à divers niveaux, mais assez évident. Déjà, la moitié des élèves de primaire et de secondaire aux États-Unis utilisent les services de Google dans le cadre scolaire. Par exemple, Mail ou Google Drive pour échanger les devoirs, etc. Autre problème, tout ça se fait sans contrôle. Les journalistes ont même peiné à trouver des études qui se penchent sur les résultats en termes pédagogiques. Et puis, les parents et les profs ne sont pas toujours bien informés de qui finance ces opérations, etc. Mais le plus intéressant, et sans doute le plus inquiétant, est ailleurs dans la logique profonde des principes pédagogiques mis en œuvre par ces entreprises. On retrouve la même idée chez Facebook et chez Netflix. Personnaliser au maximum l'enseignement. Le logiciel financé par Netflix, par exemple, pour enseigner les maths, fonctionne avec des algorithmes qui ont des points communs avec ceux de la plateforme. Le logiciel garde la trace de tous les actes de l'élève et adapte les exercices qu'il lui donne aux résultats précédents. Donc pas pour proposer un film comme sur la plateforme de Netflix, mais dans l'idée que l'exercice suivant vous fera progresser. La logique est la même pour Zuckerberg, le patron de Facebook, dans les logiciels qu'il donne aux écoles. C'est personnaliser l'apprentissage par des logiciels et donc faire de l'enseignant une sorte de tuteur qui accompagne cette personnalisation. Alors, c'est une logique qui est compliquée à critiquer car après tout, elle permet de faire ce que rêverait l'école de pouvoir faire, c'est-à-dire remettre l'élève au centre de l'école, comme on dit à chaque réforme.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu. Ouais. Merci Xavier.
Non, écoutez, je mets des guillemets.
S'adapter
au rythme de chacun, à ses aptitudes cognitives propres, etc. Sauf que c'est aussi l'accomplissement d'une logique à l'œuvre dans le web depuis longtemps maintenant et dont on peut observer les résultats aujourd'hui. L'information qui nous arrive, on le sait, de plus en plus personnalisée, ce qui fait que nous ne voyons pas tous les mêmes choses, parce que les algorithmes pensent savoir ce qui nous intéressera, ce dont nous avons besoin, ce que nous désirons. Un des effets, c'est cette fameuse bulle informationnelle. Alors comment être certain que des apprentissages hyper individualisés ne produisent pas un effet semblable, mais du point de vue cognitif? Comment ne pas dissoudre le collectif de la classe qui, certes, a ses complexités, mais est aussi un espace où on s'attend, où on s'entraide, même parfois en trichant? Mais est-ce pire qu'une école qui peine à prendre en considération les particularités individuelles? J'avoue que je ne sais pas très bien comment répondre à ces questions, mais une chose est sûre, il vaut mieux se les poser avant que d'autres y répondent pour nous.
Merci Xavier Delaporte. La réaction de Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur.
Alors moi, je suis une adepte de l'équilibre. Je pense que vous avez parfaitement résumé ça dans votre chronique. Effectivement, il peut y avoir des avantages à ces formes d'apprentissage, mais il y a aussi des risques, hein, et vous les avez mentionnés. Moi, je pense qu'une grande part de l'intelligence est liée à la capacité d'adaptation. Or, on ne s'adapte jamais aussi bien que lorsqu'on est dans un milieu complexe et pas seul devant son ordinateur. Probablement que ça fait partie des choses qu'il va falloir qu'on développe, hein, qu'on développe la recherche en sciences cognitives, notamment au service des sciences de l'éducation.
Mais derrière la chronique de Xavier, parce que moi je le connais bien, il a plein d'arrière-pensées extrêmement sournoises en matière donc de géants de l'Internet, le fait de les laisser rentrer au sein du système éducatif avec toutes les conséquences que ça pourrait avoir, qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Vidal ?
D'abord, je pense que les exemples qui ont été pris sont des exemples qui ont été pris aux États-Unis et c'est pas complètement anodin. Hein. Il y a un véritable questionnement à la fois au niveau de la France et au niveau de l'Europe, hein, concernant ce qu'on appelle les GAFA. Et je crois que ce questionnement, ben, il est justifié.
Ça veut dire prudence, questionnement.
Ça veut dire questionnement, méthode scientifique.